petit mot ou vous pouvez directement. Vous ne pouvez pas présenter le reste de la journée, hein, rien. Bon, le reste de la journée.
C'est pas ton travail.
Ah, il fallait briefer. Non. Bon, écoutez, merci d'être là aujourd'hui. Donc nous avons une séance ce matin qui va de 9h30. Bon, c'est déjà passé. Alors c'est donc de 9h44 à donc 13h, qui porte sur la lecture des images. Et donc nous allons commencer avec Madame Michèle Coquet, qui est à côté de moi, donc, qui est chargée de recherche au CNRS et donc au LAIC, et qui va donc nous parler de l'effet des portraits. Donc je vais la laisser parler parce que c'est elle qui a des choses intéressantes à dire.
C'est l'effet de portraits.
Oui, comme quoi j'aurais mieux fait de parler moi.
Bon. Voilà, vous avez déjà un petit panorama sur l'écran, mais vous ne savez rien. Alors, donc les propositions que je vais vous soumettre aujourd'hui, je vais soumettre à votre réflexion, en fait, sont parties à l'origine d'un simple constat que j'avais exposé dans le petit résumé qui est dans la brochure. Ce constat, c'est simplement que... autrefois, encore un petit peu aujourd'hui, dans la fête contemporaine, mais surtout autrefois, il était absolument inconcevable que soit exécuté ou montré un portrait de roi vivant. Et donc c'était quelque chose d'inconcevable pour des raisons touchant à la fois à la nature très singulière des rois et des chefs africains, et aussi à cause du statut également très particulier de l'image décalée anthropomorphe. Aujourd'hui, à l'inverse, comme vous l'avez tous remarqué, les portraits de chefs d'État modernes sont largement reproduits et diffusés. Alors évidemment, on pourra objecter que c'est une nécessité de la modernité, tous ces États modernes s'inscrivant dans un modèle moderne de ce qu'est un État. Alors, oui, objectif donc que c'est éventuellement une nécessité de la modernité ou également la conséquence de l'utilisation de la présence de plus en plus importante des médias, de la presse, de la télévision, des sites Internet. Et puis des systèmes d'affichage, etc., qui sont désormais de règles également en Afrique. Alors, cependant, on peut noter que ces images et leur diffusion revêtent des aspects particuliers qui sont déterminés par un contexte qui n'est pas celui des pays européens, et qui laisse penser qu'il y a aussi une réception, une interprétation de ces images en rapport avec un usage passé, ancien des images, qui est toujours très présent dans l'esprit des gens, et qui donc nous éloigne de nos habitudes européennes de consommation des images, en particulier des images à vocation politique. Donc voilà, ce sont ces questions-là que je vais évoquer, sans d'ailleurs y répondre vraiment, mais enfin, c'est pour faire penser. Et je vais me concentrer dans la lecture et l'interprétation de ces images africaines, à la fois sur la question du portrait, et sur celle des insignes de souveraineté, telles que donc elles ont été traitées dans le passé par les royautés africaines et telles qu'elles sont donc conçues, affrontées aujourd'hui par les gouvernements modernes. Parce qu'en effet, portrait et insigne sont des expressions du pouvoir, depuis toujours, qui se nourrissent les unes des autres. Alors, on va d'abord faire un petit saut dans le passé. Donc, j'appuie sur mon machin. Non, c'est ça. C'est pas le même. Là. Pourquoi il est tout raplati? Alors, rappelons qu'on peut faire ancien. Non, je voudrais arrêter ça. Faut passer en manuel. Oui, on arrête et il reste là. Bon, donc vous avez devant les yeux, vous l'avez reconnu, donc c'est une tête d'Ifé. Donc Ifé se trouve en Nigeria. Ce sont des têtes qui sont datées approximativement du 12e au 15e siècle. Et celle-ci étant constituée d'un alliage de cuivre effectué avec la méthode de la cire, de la fonte perle. Cire à la fonte perle, voilà. Ces portraits, quand ils ont été découverts par Frobenius au début du XXe siècle, ont évidemment tout de suite attiré son attention, l'ont surpris, et il a émis l'hypothèse fantaisiste que... évidemment, ce ne pouvait être des œuvres effectuées par des sculpteurs africains et qu'il ne pouvait s'agir que, enfin c'était son hypothèse, que les traces de l'implantation très ancienne d'une colonie grecque envoyée par Alexandre jusqu'en ces lieux reculés d'Afrique. Donc en même temps, ça, il échafaudait toute une hypothèse également de la colonisation, en tout cas de la découverte de l'Afrique, de la terre de l'Afrique par les Grecs quelques siècles avant Jésus-Christ. Bon, évidemment, c'est une hypothèse fantaisiste, mais cette hypothèse a été élaborée par Frobenius sur cette surprise qu'il a eue en trouvant ses têtes, d'être confronté à un traitement du visage qui, semble-t-il, était très proche de celui pratiqué par les Européens depuis la Renaissance, c'est-à-dire un traité du visage cherchant à reproduire le modelé des chairs, à donner une image ressemblante d'une personne singulière et à produire l'illusion de la vie. Bon, en réalité, tout cela doit être revu. Il ne s'agit pas, dans ces portraits griffés, il ne s'agit pas de tradition du portrait au sens où Frobenius l'entendait, au sens où nous l'entendons nous-mêmes d'habitude. Il n'y a pas de tradition de portrait des rois africains jusqu'à, disons, le 19e siècle qui suivent les mêmes voies que les nôtres. Les seules, ces figurations, celles d'Ifé par exemple, mais d'autres aussi que l'on connaît, étaient réservées à un usage posthume et donc n'avaient pas été effectuées du vivant du roi. Ça serait trop long d'expliquer pourquoi, mais enfin, l'usage posthume est pratiquement attesté. Et donc, pour ça, c'est. Pour les figurations d'Ifé et pour d'autres figurations de chefs ou de rois, il s'agit en général de représentations du fondateur mythique de la dynastie. Donc voilà, ce sont en réalité ces têtes d'Ifé sont dépourvues de regard, elles sont toutes soumises au même code plastique pour nous présenter une vision, une image d'un roi éternellement jeune. Androgyne, il est difficile de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, même si visiblement les portraits d'Ifé sont tous des portraits masculins. Cet usage posthume a été aussi supposé au regard des coutumes actuelles. Sur quel bouton j'appuie? Non, c'est pas ça. À l'aide. Ah oui, pardon. Voilà. Donc là, s'il s'agit d'un mannequin funéraire, d'un mannequin funéraire qui a été effectuée à l'occasion des secondes funérailles, la levée de deuil d'une reine Yoruba à Owo. Et on a ce mannequin parce que pour les parents du roi et pour la cour, il n'avait pas été réalisé avec suffisamment de précision, il n'était pas suffisamment ressemblant à la reine et donc il a été refusé et c'est pour ça qu'on en a un exemplaire au musée de Lagos au Nigeria. Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est ce que je voulais pointer, c'est le traitement de la tête qui rappelle évidemment les sculptures d'Ifé, même si l'on sait que dans le cadre de ces cérémonies de levée d'œil à Owo, très souvent les mannequins étaient effectués plusieurs années, une dizaine voire parfois une vingtaine d'années après la mort du roi ou de la reine. Donc on connaît bien les usages anciens qui ont contribué à sacraliser la personne royale. Le roi doit demeurer invisible, divers dispositifs veillent à le maintenir comme tel, des rideaux de tissu, des rideaux de perles fixés à sa coiffure, comme chez les rois Yoruba, les Mwami du Rwanda. Il ne peut manger, bon, je rappelle tout ça, mais vous connaissez, il ne peut manger ou boire en public, ou alors sa bouche doit être cachée, il ne peut éternuer ou tousser, il ne peut manifester aucune émotion en public. Tout cela de manière, en fait, il est donc contraint à respecter tous ces interdits au risque de déstabiliser l'ordre du monde. Il ne peut être malade, présenter d'infirmité physique, etc. Dans certains cas, lorsque le roi présente un symptôme de mal-être, de malaise, de maladie, eh bien, la cour, en tant que réunion des dignitaires et des courtisans qui doivent au roi, en fait, leur position de proximité, de relative intimité avec ce corps, avec ce dernier, la cour doit être regardée à son tour comme un corps qui prolonge et protège le corps royal et qui médiatise ses relations avec le monde extérieur. Donc, dans ces cas où le roi présente quelque chose qui ne va pas, il arrive souvent que la cour reproduise le défaut du roi. Un roi paralysé, toute la cour va boiter. Quand le sultan du Darfour tombe de cheval, tous ses courtisans devaient tomber de cheval. Si le roi rit, tout le monde rit. S'il est triste, tout le monde est triste. Bon, ça, c'est pas propre aux royautés africaines et c'est attesté depuis l'Antiquité et ça se retrouve dans nombre de cours royales du monde. Donc, lorsqu'elle reproduit des attitudes ou des incidents mettant en danger le corps royal, pour la cour, en fait, en quelque sorte, absorbe ces désordres, à la fois pour contenir les effets négatifs sur le monde que provoquent ces atteintes au corps du roi et pour les assumer aux fins de le protéger. Et bon, la cour protège la royauté, en ce que la royauté possède le roi, le pays étant identifié à son propre corps. Bon, tout ça, c'est des rappels, je pense que vous vous souvenez de tout ça. Donc, le roi est un être hors du commun, totalement singulier, définitivement différent de tous les autres, voire anormal, presque aux marges de la société. Le roi voit, mais n'est pas vu. Le visage masqué est en un sens l'emblème de la royauté. Au nom du roi, à son nom propre, pour ses sujets, ne correspond aucun visage. Et comme le rappelle Jean Bazin dans l'article qu'il a publié dans le numéro de l'Homme, je me souviens plus du titre de l'article, je m'en excuse, se cacher est une façon royale de se montrer, et le dispositif qui consiste à dissimuler le roi renforce sa présence, ou plutôt celle du corps royal. Donc le roi ne se rend visible que par ses emblèmes ou les insignes portés par ses messagers et ses serviteurs. Leur quantité est proportionnelle à la puissance et à l'étendue du royaume. Ces insignes sont également évidemment portés, de même que les régalia, par le corps de chaque roi qui n'en constitue qu'un support provisoire, puisque d'autres corps de roi sont amenés ensuite à prendre la relève. Et lorsqu'ils sont portés par le roi, ils pèsent sur son corps, en modifient sa démarche, le façonnent. Le pouvoir est lourd à porter, donc ça, Voici l'image d'un roi Kuba, Kotanbeke, qui est trois, qui a été prise en 1970 et qui est revêtue d'un de ses costumes. Il en a plusieurs qui sont tous nommés et précisément définis, et un costume extrêmement lourd puisqu'il est surchargé en kauris. Donc ces insignes sont les témoins iconiques de la réalité royale. Et donc s'il n'y a pas de représentation figurative du roi, il y a des représentations de son pouvoir à travers les insignes et des représentations agissantes, puisque le messager muni de l'insigne royal a le pouvoir d'agir sur les hommes et de décider à la place du roi. Ces insignes aussi sont souvent peuvent être considérés comme des paroles matérialisées du roi. On a tous en tête, je pense, l'exemple des Akans, et en particulier des Ashanti, qui font une des Ashanti, d'ailleurs aussi des fonds du Dahomey, qui font une utilisation de l'image sculptée, une grande utilisation de l'image sculptée. Là, il est probable qu'il y a eu une influence également européenne dans, je dirais, la multiplication de ces insignes, parce que ce sont des gens qui ont été en contact très étroit dès le 18e avec les Européens, qui eux-mêmes étaient des grands utilisateurs d'insignes. Et quand la communication linguistique était difficile, la communication à travers ces insignes, leurs échanges, leurs dons entre Européens et autochtones a été quelque chose de très important pour construire des relations commerciales entre les deux groupes. Donc au sommet de ces insignes, qui sont souvent des bâtons sculptés avec, vous les voyez, des sculptures, soit des sculptures figuratives, éléphants, lions, léopards, etc., ou des sculptures plus schématisées, plus abstraites, eh bien tous ces bâtons en fait sont des bâtons à parole, dans la mesure où à chacun de ces insignes correspondent des proverbes ou des devises dont elles sont la transposition visuelle. Et vous le savez, donc en Afrique, les proverbes sont souvent prétexte à créer des images, aujourd'hui beaucoup dans les motifs de pagne. Car le proverbe ne joue pas seulement, comme chez nous, le rôle de vérité morale, mais il est plus proche de l'aphorisme. Il permet d'énoncer des principes d'ordre social, politique, spirituel. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lien entre hier et maintenant que ces images rendraient visibles, non seulement pour nous, mais pour les principaux intéressés, évidemment, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ces chefs d'État sont rendus visibles, même survisibles à la télévision, sur Internet, dans la presse, sur les affiches, les tissus, les billets de banque, etc. Ce ne sont pas des rois, évidemment, tels que la coutume les a conçus. Leur légitimité ne repose pas sur un droit successoral établi au sein d'une généalogie dynastique fondée par un ancêtre mythique. Ils parlent, ils se montrent avec femmes et enfants, sont photographiés dans diverses occasions de leur vie officielle, inaugurations, cérémonies de décoration, discours, banquets, rencontres avec d'autres hommes d'État, etc. Donc tout ce qui fait l'ordinaire de la vie d'un homme politique. Ils se montrent donc dans la fonction qui est la leur, celle de gouverner par des actes entérinés par des paroles prononcées lors de discours. Et voilà. Donc je vais m'attacher à ces deux éléments que sont les portraits et les insignes à partir d'exemples particuliers, non pas tant pris à des pays où l'on est dans un état de droit élu démocratiquement, mais suivant des règles démocratiques, mais dans des pays à régime autoritaire, puisque c'est là où la différence avec... La différence avec nos donc les pays européens, d'Europe occidentale, est la plus flagrante. Alors, je vais commencer par cet usage des insignes. L'un des supports principaux à l'exploitation de la visibilité des hommes d'État africains sont les tissus imprimés en pagne, chemise et robe. Alors, je passe... Non, c'est pas ça. Voilà. Non. Donc, j'en avais une autre, mais elle doit être après, vous la verrez après. Donc, vous, de toute façon, vous connaissez tout ça. J'aurais peut-être quand même, si c'est pas trop difficile d'y aller. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle s'arrête sur la... Voilà. Donc, voilà, vous voyez une Ivoirienne ici qui arbore donc un vêtement avec le portrait de... du président Fouette Boigny. Donc, vous connaissez ce type de tissu. L'impression sur tissu, plus que sur papier pour l'Afrique, permet désormais de diffuser, en le démultipliant, les portraits du chef d'État, comme d'autres personnages politiques, des ministres, des chefs coutumiers aussi, des chefs d'État étrangers et des chanteurs à la mode, etc., des portraits de la Vierge, bon, du pape... mais avec des effets différents, selon le type de personnage évidemment reproduit. À ces portraits de chefs d'État imprimés sur les tissus, il faut ajouter d'autres motifs qui ont rapport avec ces hommes politiques. Et là, je n'ai pas d'exemple, mais vous avez des motifs de pagne dont le nom est révélateur, comme ceinture de Mobutu, peigne d'Eyadema ou ongle de Madame Oufouette. Voilà. C'est dommage, je n'ai pas les motifs là. Donc, chaque sujet, chaque citoyen peut devenir l'enseigne publicitaire de son chef, visuellement identifiable comme tel. Et l'espace national, lors d'une élection, d'un congrès, d'un événement important dans lequel le chef joue un rôle de premier plan, est à la chaque fois redéfini, redéployé, consolidé par la diffusion visuelle du visage du chef de l'État, le corps n'étant jamais montré, que chacun des citoyens met en mouvement en l'arborant sur ses vêtements, t-shirt ou pagne, aussi les t-shirts qui sont. Permettre que son portrait soit imprimé et reproduit est une manière pour le chef de marquer, de montrer son inscription dans la modernité. Le support corporel est donc le meilleur support qui soit pour faire de la propagande. Et voilà. Et donc, le fait que ça soit imprimé sur les textiles n'est pas non plus anodin. Et donc là, je vais faire un bref... Je vais faire un bref retour sur l'histoire. Il faut savoir que donc ces pagnes qui sont portées actuellement partout sont ont une histoire qui est fortement liée à la colonisation. Ce qu'on appelle les wax aujourd'hui, donc produits et inventés en réalité essentiellement par les Anglais au XIXe siècle, qui les ont imprimés de motifs inspirés des motifs indonésiens et qui les ont ensuite diffusés à travers toute l'Afrique anglophone pour trouver un écoulement à l'industrie textile anglaise qui surproduisait du tissu. Et donc ces wax ont été ensuite imposés durant la colonisation anglaise. Leur port obligatoire a été imposé au détriment des tissus traditionnels aux populations africaines. Et par un curieux retour des choses, après les indépendances, de nombreux chefs d'État africains ont exigé que leurs sujets portent ces tissus, parfois en interdisant totalement, comme Mobutu, le port des tissus européens et des costumes européens à leur population. Donc le fait que ces portraits soient diffusés sur des tissus donc imprimés, soit des wax, soit des, donc venus d'Angleterre et de Hollande
ou des fancy, c'est-à-dire des tissus imprimés sur place, et une façon aussi de marquer le pouvoir d'État sur l'espace national. Donc, le temps presse, donc je vais pas pouvoir. Voilà, Madame Gbagbo, donc qui se présente sur son site personnel sur Internet, avec un pagne fancy, donc imprimé en Côte d'Ivoire, et de même ces dames de compagnie derrière, et qui porte l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, voici des insignes de souveraineté, donc diffusés à travers les pagnes et les portraits de chefs d'État imprimés sur les pagnes. Il y en a d'autres maintenant qui sont inspirés, qui ont d'autres sources d'inspiration, qui sont celles donc prises simplement donc à la religion chrétienne et l'utilisation en fait évoque le pouvoir charismatique du personnage politique concerné. Donc ici Simone Gbagbo qui se présente sur un fond de ciel bleu avec derrière une étoile ou un soleil, enfin c'est difficile de trancher, et je n'ai pas d'image, mais très souvent cette étoile ou ce soleil sont associés à une colombe animée. Donc je vais continuer vite parce que je n'ai pas le temps. Donc dans la tradition des insignes de souveraineté reprise par les chefs d'État, donc il y a la référence à la religion chrétienne, mais aussi des références très nettes qui ont été faites aux insignes de souveraineté européens. Et là, c'est Bokassa, son couronnement, qui s'est inspiré en réalité à la fois des insignes de souveraineté utilisés par Napoléon lors de son sacre. Donc là, vous avez l'aigle impérial, la traîne rouge carmin bordée d'hermine, la couronne. Et également, il s'est donc déjà à l'époque, il avait en vision d'apparaître à la fois comme Napoléon, mais aussi comme le pape. Et là, vous voyez, en fait, il a une robe qui est une robe papale, en fait, inspirée du modèle papal, qui est une longue robe blanche serrée à la ceinture, qu'il porte donc sur. Donc le voilà lors de son sacre dans un autre costume qui est une reproduction du costume du ministre de Napoléon, le maréchal Ney. Donc c'est une référence directe à Napoléon avec l'aigle impérial derrière. Et le voilà après sa destitution qui retourne à son inspiration première, celle d'être un prince apostolique. Donc il est là, habillé avec une grande robe blanche, la croix derrière et des portraits du Christ en croix accrochés au mur, chez lui, à Bangui. Alors ça, c'est insignes empruntés, je dirais, à l'Occident, insignes empruntés du pouvoir royal, en fait, oui, de la souveraineté plutôt, empruntés aux traditions. Bokassa, donc je sais qu'il y a un collègue qui va parler de ça tout à l'heure. Bokassa, c'est le léopard, tout le monde. Donc là, il a sa toque. Mobutu. Et il a toujours eu des vestes dont les motifs rappelaient la peau osselée du léopard. Donc le léopard apparaît sur toutes les images où Mobutu s'est mis en scène. Et le léopard, même dans les traditions des populations de l'ancien Zaïre, est très présent. Par exemple, le roi des Koubas, que vous avez vu couvert de coris tout à l'heure, est un léopard fait homme. Hein, c'est son double dans la brousse et le léopard. Et il est censé se transformer en ce fauve et pouvoir tuer à tout moment, donc le léopard étant le fauve le plus dangereux aussi de la nature sauvage africaine. Donc Mobutu léopard, le voici sur son trône avec une peau de l'animal à ses pieds. Ça, oui, j'ai craint que, voilà. Voici une fresque qui a été effectuée par donc un peintre congolais et qui nous présente une sorte de... Voilà, c'est un résumé, une synthèse des actes et de la vie de Mobutu. Donc au centre, le léopard, qui est son emblème. Lui, au-dessus, à la fois avec le chapeau de léopard et la colombe, qui est un oiseau très utilisé aujourd'hui sur les sites internet des chefs d'État, non seulement ivoirien, mais de l'Afrique centrale. Et puis, bon, je ne vous le commente pas, mais il y a toute la vie de, les créations, les productions de Mobutu, usines, ponts, ses visites au chef d'État, etc. Le voilà ici dans une autre peinture congolaise, donc avec son chapeau et puis sa canne sceptre qui ne le quittait pas. Ce bâton du pouvoir, c'est le bâton, l'instrument à créer la distance, comme disait quelqu'un comme Canetti, qui est devenu le sceptre et que Mobutu a tout à fait bien utilisé, qui est présenté dans cette peinture avec Mobutu avec des lunettes de soleil, puisqu'on prétendait qu'il tenait son pouvoir de pouvoir occulte qu'il avait contracté au contact de sorciers et de magiciens, et qu'ainsi il cachait ses yeux derrière ses... Donc voilà, diffusion du portrait d'image du portrait du chef de l'État sur les billets. Donc là, c'est les billets de banque du Zaïre, Mobutu accompagné d'un léopard, Mobutu en chef de l'armée, toujours avec l'insigne du léopard qui est celui qui s'était choisi, accompagné de vues sur ses réalisations dans le pays. Donc là, je vais vite. Je conclue, voilà. Je conclue par cette image. J'avais donc d'autres choses à vous dire sur... Peut-être que je vous dis extrêmement rapidement, donc cette multiplication des images de portraits du chef par l'intermédiaire, donc non seulement essentiellement des tissus, mais aussi des billets de banque, en tout cas dans le cas de Mobutu, donc s'accompagne évidemment d'actes de parole, qui sentences, proverbes, discours apportés à la presse et à la radio. Donc c'est cette façon aussi que une légitimité est donnée aux images. Et sur le site officiel du président Bongo, on a cette... Donc Bongo, j'aurais bien aimé retourner. Je prends encore 5 minutes, si c'est possible. On a cette image du chef de l'État qui parle, qui profère des discours, tandis qu'il... ses portraits sont... diffusé sur le site. Alors là où les institutions s'effritent, là où le droit n'existe plus, où se creusent, voilà, le voilà, les inégalités sociales entre les proches du pouvoir et le reste de la population, eh bien, il y a place pour la prolifération de la rumeur. La rumeur, c'est quoi ? Enfin, sa pertinence part du principe que l'information qui a été répétée par plusieurs bouches, qui a parcouru un ou plusieurs réseaux sociaux, a subi avec succès l'épreuve de l'intérêt social. Je reprends les termes de Bogumil Jeziaviki, qui a fait un très bel ouvrage sur la peinture urbaine au Congo. Et seul importe le fait que les gens accordent crédit à tel dire ou à telle source, usuellement proche du pouvoir. Et mon idée, c'était donc la rumeur s'étend, elle est non seulement portée par des milliers de bouches qui la propagent, mais aussi par les milliers d'images du chef sur les tissus et sur les billets, dans la presse, et qu'en fait, rumeur orale et rumeur visuelle s'associent, se nourrissent mutuellement pour construire l'ubiquité du pouvoir, que nous présente assez bien cette image de Bongo portrait officiel présenté, où il est présenté au centre du monde, et avec derrière toutes les heures affichées sur un... Il est au centre, il est à la fois partout. Une citation de Bokassa est aussi là pour rappeler cette ubiquité. Donc Bokassa disait « Je suis partout et nulle part, je ne vois rien et je vois tout, je n'écoute rien et j'entends tout, tel est le rôle d'un chef d'État. » Donc je vais voilà, finir par une parodie, je sais pas, je suis désolée, mais j'ai la dernière photo, donc... Voilà, non, c'est la dernière du panorama. Voilà, encore après. Donc, c'est une photo de Samuel Fosso, qui est un photographe camerounais, qui s'appelle Le Chef, et qui a été exposé à Beaubourg l'année dernière à Africa Remix. Et vous pouvez, il n'y a presque pas besoin de commentaires, les wacks africains sont là. Le chapeau de Mobutu, les lunettes, le léopard, les insignes des chefs Ashanti, les chaussures modernes. Voilà. On a une parodie du pouvoir autoritaire africain avec les différents insignes qui le construisent et qui le constituent. Voilà, j'étais très vite. Bon, bref, c'est fini.
Respect du temps.